Bonjour à tous, je vous propose d'ouvrir la Bible et nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 9 et au verset 13. Romains 9, 13. On va lire à partir du verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce texte-là nous parle de quelque chose de terrible, c'est que de deux frères issus de mêmes parents qui ont reçu une éducation identique, il va y avoir deux directions différentes, au point que l'un sera aimé de Dieu et pas l'autre. Et c'est un texte qui nous parle simplement du choix qu'ont fait l'un et l'autre. La famille était une bonne famille, quoique les parents avaient déjà des préférences. Sur l'un ou sur l'autre, on sait dans la parole que Isaac, son père, avait des préférences pour Ésaü, des préférences liées à la nourriture qu'il ramenait à la maison, entre autres. Rebecca avait des préférences pour Jacob, parce que c'était celui qui aimait se tenir dans les tentes. Bref, quelle que soit la famille dont on vient, est-ce que nos parents étaient unis? Est-ce que nos parents faisaient des préférences? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet. Mais ce qu'on peut retenir, mine de rien, de cette famille-là, c'est que quelle que soit la famille d'où je viens, quoi qu'aient été les expériences que j'ai pu avoir, on peut avoir été bien éduqué et faire un mauvais choix. On peut avoir été mal éduqué et faire un bon choix. Tout est possible. Et là, on a une famille où deux frères vont faire chacun leur choix. En premier, j'aimerais parler d'Ésaü. Est-ce que ce texte nous dit simplement que Dieu lui-même faisait des préférences? Absolument pas. Ce texte-là nous dit que Dieu a aimé Jacob parce qu'il a vu dans son cœur quelque chose. Et Dieu a haï Ésaü parce qu'il a vu dans son cœur autre chose. Et que ce n'est que la conséquence des choix de l'un ou de l'autre qui font qu'on va s'attirer l'amour de Dieu. Quoique l'amour de Dieu, on l'a chanté, il est inconditionnel. L'amour de Dieu aime tous les hommes. Mais qu'en faisons-nous de l'amour de Dieu? Ésaü, on va lire son histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 25. L'histoire de cette famille, l'histoire de ses deux frères. Et Genèse, chapitre 25, verset 29. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, en référence au repas, le plat de lentilles. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On voit dans cette histoire qu'Ésaü a un comportement de mépris. Ésaü n'a pas méprisé n'importe quoi et n'importe quel droit d'aînesse. Je dirais, entre toutes les familles de la terre, il y en avait peut-être un qui était précieux, c'était celui-là. Et Ésaü l'a méprisé. Le droit d'aînesse qu'avait Ésaü, c'était le droit qu'il avait hérité de son père, Isaac, qui était lui-même le fils d'un autre qui s'appelait Abraham. Qui, vous le savez, peut-être pour certains, Abraham avait reçu de Dieu une promesse merveilleuse. Une promesse merveilleuse, comme quoi sa descendance serait bénie, comme quoi Dieu bénirait matériellement, spirituellement. C'est une promesse merveilleuse, et comme quoi il pourrait vivre dans un pays que Dieu aurait préparé. Le droit d'aînesse faisait qu'il avait aussi la double portion de l'héritage. Le droit d'aînesse faisait qu'il était censé devenir le chef de la famille, hérité du nom de son père. C'est avec lui que Dieu allait fixer ses regards, en regard à la promesse qui a été faite au père et au grand-père. Seulement, pouvoir hériter de cette promesse, il fallait dans un premier temps se montrer patient, parce qu'un héritage se touche quand ? Quand au décès du père, on est tous d'accord. Donc il y a une notion d'attente, le fait que ce ne soit pas tout de suite, c'est une promesse, qui n'est qu'une promesse tant qu'on n'a rien touché, mais quand la promesse vient de Dieu, on peut savoir qu'elle se réalisera un jour, ça c'est sûr. Et il fallait donc qu'il reste soumis de son vivant à son père, effectivement. Mais quelque chose qu'il n'a pas compris, de la même manière qu'on pourrait le rapprocher de la parabole du fils prodigue, où le fils aîné ne comprenait pas qu'il travaillait pour lui, le frère aîné ne comprenait pas qu'il travaillait pour lui, étant l'héritier principal, Ésaü a méprisé ce droit-là. Mais c'est très très lourd de sens, le fait d'avoir méprisé ce droit d'aînesse. Ésaü a rejeté son nom. Il a rejeté son propre nom, celui qui était associé à sa famille. Il ne voulait pas qu'on puisse dire, entre guillemets, il n'a pas permis que ce soit écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Eh bien non, ça on ne le lit pas dans la parole, parce qu'Ésaü l'a méprisé. Et en regard de ce mépris, son nom va être changé. Et il va devenir Édom, le nom du plat, du petit plaisir. Et c'est ce nom-là qui sera transmis à toute sa descendance. Quelle humiliation! Alors que j'ai un nom, je vais perdre ce beau nom, je vais perdre cette identité, et je vais prendre à la place un nom qui est si insignifiant à la place, qui ne parlera plus que du mépris que j'ai eu. Le nom que je porterai ne rappellera que le mépris que j'ai eu un jour, que le mépris que mes ancêtres ont eu un jour. Bref, Ésaü a méprisé quelque chose que Dieu avait promis, Ésaü a méprisé quelque chose que Dieu voulait lui donner. Et je crois que dans cette attitude, on peut peut-être se retrouver. Ton paradis, moi, je n'en veux pas. Je préfère m'amuser. Et voilà un plat de lentilles. Parce qu'on ne réfléchit pas aux choses, certes, qui ne sont qu'à l'état de promesse. Dieu veut que l'homme soit auprès de lui pour l'éternité. Dieu veut bénir l'homme parce qu'il aime l'homme profondément. Il veut lui faire du bien. Mais nous, on préfère des plats de lentilles. On préfère des choses qui sont insignifiantes. Dieu veut nous bénir et on refuse la bénédiction de Dieu pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. La bénédiction qu'avait reçue Abraham, elle était pourtant belle. Abraham avait cru dans cette promesse et cela lui fut compté comme justice, dit la parole. Quelle était cette promesse? On peut la lire, hein, c'est quelques pages avant, Genèse 12, versets 2 et 3. Elle s'est renouvelée plusieurs fois, hein. C'est la première itération, on va dire, de la promesse. Elle s'est complétée après. Bon, on voit déjà rien que celle-là, elle est bien. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et à mépriser cette promesse, il s'est retrouvé avec un nom tout petit, qui parle d'un simple plat de lentilles. Il en est loin de la promesse, déjà là. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, car toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà l'héritage qu'il était censé avoir et qu'il a méprisé. Dieu nous appelle de la même manière qu'Abraham a été appelé à quitter sa patrie pour aller dans un pays de bénédiction. Nous sommes appelés de la même manière à quitter ce qui nous lie sur cette terre, à nous détacher de ce qui nous oppresse, de ce qui attire nos regards, pour avoir les yeux fixés sur autre chose que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous amener dans un pays plein de bénédictions. Il veut rendre notre nom grand. Dans l'Apocalypse, il y a une promesse qui est qu'un jour, celui qui aura cru, il aura un nom que Dieu lui donnera, un grand nom, un nom glorieux. Mais si je méprise, c'est un tout autre nom que je risque d'avoir, à savoir le mépris même que je vais donner à Dieu. Nous sommes appelés à aller au ciel un jour. Nous sommes appelés à faire partie du peuple de Dieu. Est-ce que nous allons réagir comme Ésaü, en méprisant cette promesse, en méprisant cet héritage que Dieu veut nous donner, ou est-ce que on va choisir de vouloir profiter de quelque chose qui ne durera pas et qui, en plus, nous privera du bien que Dieu veut nous faire. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'une pure grâce que Dieu nous appelle ainsi à aller auprès de lui. C'est le désir de Dieu et c'est ce que son amour a fait quand il a envoyer son Fils unique mourir sur la croix pour nous. Et pourtant, nous méprisons ce que Dieu veut nous donner. Nous sommes dans une société pousse-bouton, comme on dit. On appuie sur le bouton, on a le café. On appuie sur le bouton, on a la page qui s'ouvre. On appuie sur le bouton, on achète ce qu'on veut. La moindre envie doit être satisfaite à l'instant même. On veut tout et tout de suite. Nous sommes dans une société où on pense à son plaisir, au plaisir du moment. C'est toujours le plaisir du moment d'ailleurs. Il suffit de sortir dans la rue, d'ouvrir les yeux pour voir que tout est fait pour le plaisir du moment. Acheter le dernier, je sais pas quoi, le dernier smartphone. Vous aurez du bonheur, il paraît. En général, quand on succombe à ce genre de tentation, on se rend compte bien vite que c'est que de la poudre aux yeux. Une société du moi d'abord. Moi, je me sers. Je m'occupe de mon plaisir du moment. Je m'occupe de mon envie du moment. Le reste, on verra plus tard. Et on ne se rend pas compte, à force de ne pas regarder les choses au loin, que nous sommes en train de passer à côté d'une grande bénédiction que Dieu veut nous donner. La société où on consomme, d'abord. Société de consommation, c'est exactement ça. Ésaü était déjà dans la société, il a peut-être créé la société de consommation. Il a voulu consommer avant d'avoir le résultat de la promesse. Et finalement, on se rend compte que cette société-là, on voit où est-ce qu'elle nous amène. Une société où l'homme est profondément vide, L'homme est profondément triste. Il a beau avoir essayé de goûter à tous les plaisirs que ce monde pouvait lui offrir, il ne peut constater qu'une seule chose quand il se retrouve seul chez lui, c'est qu'il n'a pas réussi à assouvir sa faim, sa soif. Il y a encore quelque chose qui reste là. Et alors que l'homme peut ainsi se sentir mal, il va se tourner vers d'autres choses pour essayer de se consoler. Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être autre chose. Et finalement, c'est pour essayer de combler un mal-être qui est là. Et alors qu'il essaye de corriger quelque chose, il ne fait que s'enfoncer encore plus. Voilà l'état de l'homme aujourd'hui. Et voilà la société des ahus. L'homme qui essaye de compter sur lui-même, l'homme qui essaye par tous les moyens d'assouvir ses envies et ses pulsions, c'est notre société. Et c'est exactement ce que nous lisons dans l'histoire d'Ésaü. Et on voit ici que ce que Dieu veut nous promettre, c'est pas ça. Que ça, c'est pas le bonheur. Et de toute manière, il n'y a pas besoin de lire la Bible pour constater que la société d'aujourd'hui ne nous rend pas heureux. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et de voir que des personnes qui ont des situations qui sembleraient être si belles arrivent à se supprimer la vie. Des personnes ultra riches qui pourraient faire ce qu'elles veulent de leur vie, qui finalement ont perdu le goût à la vie. Des plats de lentilles. On peut avoir toutes les richesses de ce monde, ça ne restera qu'un plat de lentilles, comparé à ce que Dieu veut nous donner. Il y a beaucoup plus important que les choses matérielles. Il y a beaucoup plus important que les petits plaisirs de ce monde. Il y a quelque chose que Dieu veut te donner, qui est le salut, qui est la vie éternelle. Une vie auprès de Dieu, dans l'amour, dans la paix. Est-ce que le soir, quand tu te couches, tu peux te dire: quel bonheur de m'endormir en paix. Je crois que beaucoup courent après la paix, ils n'arrivent pas à la saisir parce qu'ils ne vont pas la chercher là où il faut. La paix, la vraie paix, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Et tu peux essayer d'avoir, avoir, 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 tu y es à côté parce que Dieu ne t'appelle pas à avoir, Dieu t'appelle à être. Et quand tu comprends que l'important n'est pas d'avoir, mais d'être, alors, être quoi au juste? Et on va le lire. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Un texte qui nous parle de Jésus en tant que la parole, la lumière. Et il est dit ceci: tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir, donc il est question d'être, enfant de Dieu. Dieu t'appelle à être son enfant. Et qui dit enfant, dit que tu auras des traits de caractère de celui duquel tu es tiré. Tu auras des traits de caractère divin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais un jour, on sera comme lui, on sera à son image. Et ça, c'est un bonheur éternel, ce sont des richesses que Dieu veut nous donner. C'est une nouvelle demeure, ce nouveau corps qu'il va nous donner n'aura rien à voir avec celui que nous avons ici, qui dans la Bible est comparé à une tente, alors que ce que Dieu nous prépare est un palais. Dieu veut nous donner de tellement belles choses, et nous, nous préférons nous intéressés à des plats de lentilles. Dans le livre des Hébreux, il est écrit ceci: c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Le mépris que j'ai des choses célestes, des choses de Dieu, alors qu'il veut me faire tellement de bien, il veut que je sois son enfant. Et nous nous méprisons les bras tendus de Dieu vers nous, nous nous tournons et nous disons non, 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 ça ne m'intéresse pas, je préfère rester là. Et c'est ainsi que le simple fait de tourner ainsi le dos à Dieu est un péché. Le fait de mépriser ce qu'il veut nous donner est un péché. Et le plaisir du péché, entre guillemets, de vouloir faire ce que tu veux, parce que c'est peut-être ce que tu crois, que tu fais ce que tu veux, mais tu ne fais qu'obéir à autre chose qui triomphe finalement sur ta propre volonté. Tu penses que tu choisis, mais tu choisis rien du tout. Tu ne fais qu'obéir à autre chose, à quelqu'un d'autre. Ça te donne une certaine jouissance, mais comme un plat de lentilles, ça passe vite. Et quand tu réfléchis sur les choses, tu te rends compte que c'est rien. Ésaü a ainsi méprisé Dieu. Son frère est différent. Et Jacob, il a été aimé de Dieu. Pourtant, quand on regarde Jacob, c'est pas beaucoup mieux, en fait. C'est pas beaucoup mieux. Jacob, il avait quand même le désir d'obtenir ce droit d'aînesse, mais il l'a mal obtenu. Il savait que Dieu avait dit quelque chose, et il aurait pu attendre que Dieu agisse. Et Dieu aurait fait sa part. Mais Jacob a essayé d'obtenir par ses propres moyens cette chose-là. Il s'est attaché à une promesse de Dieu, une vraie promesse de Dieu, mais il a voulu aller plus vite que la musique, comme on dit. Et il a été amené à tromper, à faire quelques filouteries, comme on dit. Il a essayé de faire par... Il avait tellement vu le fait d'être béni, finalement, il n'avait pas compris. Lui aussi était dans le... Il voulait avoir. Lui aussi, il voulait avoir. Il n'avait pas compris non plus qu'avant d'avoir, il était important d'être quelqu'un. Et Jacob, il a fallu tout un cheminement. Il a trompé. Il a trompé son frère. Il a trompé son père. Il a trompé son oncle. Il a même fait du chantage avec Dieu. Oui, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout. Dans la Bible, c'est écrit nulle part que Jacob, d'ailleurs, a donné la dîme de tout, soit dit en passant. Le chantage de celui qui dit « Dieu, si tu me donnes ça, alors je vais réfléchir. » Mais ça, ce n'est pas un discours qui va permettre à Dieu de te bénir. Heureusement, Dieu est bon. Parce qu'avec le comportement de Jacob, si sa patience n'avait pas été aussi grande, il aurait pu subir le même sort que son frère. Heureusement, il y avait quand même quelque chose dans le cœur de Jacob. Il était quand même attaché aux choses de Dieu. Il s'y est certes mal pris, mais Dieu a permis que malgré tout, il soit orienté dans la bonne direction. J'aimerais qu'on lise l'histoire du rétablissement de Jacob dans la Genèse au chapitre 32. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Genèse 32, 24. 25 même. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche se démit pendant qu'il se battait avec lui. Le verset 26, il dure plusieurs heures. Nous, on le lit vite, c'est un verset, mais ça dure plusieurs heures, cette affaire-là. L'homme dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai point partir, sans que tu me bénisses. » On voit ici le fait que Jacob voulait être béni. Il voulait, lui, il était attaché, à l'inverse de son frère, à l'héritage. Il était intéressé à la promesse que Dieu avait faite à son père, à son grand-père. L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donne, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Penuel, et Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Le récit de ce combat nous montre vraiment, peut-être, la croisée des chemins où tu es peut-être rendu cet après-midi, où Dieu te pose la même question qui a été posée à Jacob. Quel est ton nom ? Jacob avait ce nom-là qui voulait dire trompeur, supplanteur, et il le portait bien, son nom. Mais quand Dieu lui pose la question, il l'appelle à être honnête avec lui-même. Il l'appelle à réaliser qui il est vraiment. Vous savez, chez les Hébreux, le nom, c'est très important, parce que le nom, c'est ce qui définit qui nous sommes vraiment. Et quand Dieu pose cette question, il ne demande pas simplement le nom. D'ailleurs, il le connaissait, le nom. Mais Dieu voulait l'amener à réfléchir. Qui es-tu vraiment ? Au plus profond de ton être, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Où en es-tu ? Et à cette question, Jacob, lui, il va tomber le masque. Il va dire, oui, je suis Jacob. Je suis le trompeur. Je suis celui qui supplante. Cet après-midi, peut-être que tu peux toi aussi réaliser ces choses et dire, oui, je suis pécheur devant Dieu. Oui, tel que je suis, je ne pourrai rien obtenir parce que je ne vaux pas grand-chose. Pourtant, aux yeux de Dieu, tu vaux beaucoup. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu, cet après-midi encore, te pose la question, parce qu'il désire te sortir de là où tu es peut-être. Oui, je suis celui qui a voulu manger de ce plat de lentilles, plusieurs fois même. Qui es-tu ? Quel est ton nom ? Cette question et la bonne réponse à cette question, ça s'appelle finalement la repentance. Parce que celui qui reconnaît devant Dieu qui il est, il va reconnaître son péché, il va reconnaître le fait qu'en lui, il n'y a rien de bon, et en nous, il n'y a rien de bon, parce que nous sommes poussés naturellement à faire le mal. Celui qui fait ça, qui réalise ces choses vraiment, et qui demande à Dieu pardon, et qui demande à Dieu du secours, alors Dieu va intervenir. Et le nom de Jacob va changer. Vous avez remarqué que les deux frères ont leur nom changé ? Ésaü devient Édom et Jacob devient Israël. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui lutte contre Dieu, c'est celui qui lutte avec Dieu. Ça veut dire qu'il a Dieu pour appui. C'est celui qui va avoir Dieu avec lui. C'est celui qui, une fois qu'il aura reconnu son besoin et qui aura accepté Dieu dans sa vie, pourra bénéficier de l'aide de Dieu dans sa vie de tous les jours. Dieu veut changer ton nom. Dieu veut te donner une nouvelle identité. Dieu veut te sortir de là où tu es cet après-midi. Il veut te guérir, il veut te restaurer, qui que tu sois, quelle que soit ta vie. Dieu prouve son amour envers toi en ce que, alors que tu es encore pécheur cet après-midi, Christ est mort pour toi. Je paraphrase un verset de la parole. Dieu veut te sauver. Et Jacob l'a compris. Jacob l'a compris. Et il n'a pu sortir de ce combat qu'en s'appuyant sur un bâton. Un bâton qui nous parle de la croix. Mais ce combat même préfigurait un autre combat qui a eu lieu dans un jardin, un combat que Jésus a eu lui-même à Gethsémané, où il a été en proie aux angoisses, en proie à cette pression terrible. Il a fallu qu'un ange aussi, dans ce combat, intervienne pour qu'il puisse le restaurer dans son corps, parce que sinon il allait y passer. Or, il fallait bien qu'il aille jusqu'à la croix. On voit aussi dans ce combat de Jacob avec l'ange un autre combat où Israël a combattu Jésus lui-même. Jésus n'a-t-il pas été condamné par les Juifs ? Un autre combat. Et dans le combat de Jacob, l'issue semble assez incroyable parce qu'on voit qu'il est vainqueur alors que c'est lui qui a été démis. Et Jésus est aussi vainqueur à la croix alors que finalement il est mort. Et pourtant, il a triomphé. Que s'est-il passé dans ce combat ? À la croix, Jésus a porté ton péché. À la croix, Jésus a été condamné pour toi. Pour que tu puisses, en toute assurance, venir à ses pieds et lui demander pardon. Parce que son sang a coulé pour toi. Parce qu'il t'aime. Peut-être l'as-tu méprisé par le passé. Mais encore cet après-midi, tu peux revenir sur ton comportement. Tu peux réfléchir. Et devant Dieu, tu peux avoir un moment de vérité avec lui. Tu peux lui demander pardon et revenir à la croix. Être touché tout à nouveau par Dieu. Parce que à la croix, Jésus a triomphé. Il est mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Et il intercède auprès de Dieu pour quiconque s'approche de lui et demande pardon. Ne t'appuie pas sur tes forces. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Jacob s'appuyait sur le bâton qui représente la croix. Et c'est le seul point d'appui qu'on puisse avoir. À la croix, nous avons la justification de nos péchés. Et quand le diable vient nous accuser de quoi que ce soit, on peut montrer le bâton de la croix et lui dire « Non, tu ne peux pas m'accuser. » Parce que j'ai demandé à Dieu pardon et j'ai été pardonné de mes péchés. C'est comme ça que celui qui a cru peut affirmer avec assurance qu'il est sauvé. Est-ce que cet après-midi, tu peux avoir une réponse par l'affirmative à cette question ? Est-ce que tu es sauvé ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Ésaü, on va le lire, je vais terminer là-dessus. Dans le livre des Hébreux, on va le lire dans le chapitre 12. Il nous est encore parlé d'Ésaü et de ce comportement qu'il a eu quand il s'est rendu compte qu'il était passé à côté. Et il a beaucoup pleuré, mais ce fut en vain. Hébreux, chapitre 12, verset 16. Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui, pour un seul plat, vendit son droit d'aînesse. Donc vous comprenez bien que le droit d'aînesse, c'est tout ce que j'ai présenté, c'est son identité devant Dieu. Il n'était pas intéressé par le nom que Dieu voulait lui donner, par le fait de lui ressembler un jour. Verset 17, « Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter de la bénédiction, il fut rejeté. » car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait cherché avec larmes. J'aimerais que ce ne soit pas notre cas un jour devant Dieu. Et permettez-moi d'insister sur le fait qu'il faut, devant Dieu, le faire maintenant. Un jour, celui qui persiste dans son péché, celui qui persiste dans son comportement à vouloir se nourrir de plats de lentilles sans s'intéresser aux choses de Dieu, celui qui persiste à fouler aux pieds le sacrifice de Jésus à la croix, à dire à Dieu que ça ne l'intéresse pas, celui qui continue à rester comme il est, un jour, il pleurera aussi, avec larmes comme Ésaü. Et Dieu sera inflexible. C'est de notre vivant qu'il faut prendre la bonne décision. Et notre vie ne nous appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Le jour où ta vie te sera redemandée, est-ce que tu auras fait le bon choix ? J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. On va prendre un dernier chant. Et pendant ce chant, j'aimerais t'inviter à t'approcher. si tu veux qu'on prie pour toi, si tout à nouveau, tu désires devant Dieu lui demander pardon, si devant Dieu, tu réalises à travers cette prédication que oui, tu as besoin de la grâce de Dieu, et que alors que tu réalises ces choses, tu n'as peut-être pas la force de demander à Dieu son secours. On va s'associer avec toi et on va prier avec toi pour que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, qu'il puisse te faire réaliser comment il te voit, qu'il puisse, par le Saint-Esprit, toucher ton cœur s'il ne l'a pas déjà fait. Approche-toi sur le devant et nous allons prier pour toi pendant ce chant. Seigneur notre Dieu, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ta parole, qui, oui, quand on le réalise, tes avertissements sont bien la preuve de l'amour que tu as à notre égard. Tu nous avertis parce que tu nous aimes. Tu nous avertis parce que tu veux prendre soin de nous. Et tu nous appelles encore, tu nous tends la main encore une fois. Ce sont des bras d'amour qui sont tendus vers nous. Et nous t'en sommes reconnaissants parce que tu ne te lasses pas de nous appeler. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui un jour a touché nos cœurs. Et je veux te prier, Seigneur, pour peut-être les personnes qui vivent un combat maintenant, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse convaincre ces personnes. Qu'il y ait des victoires encore cet après-midi. Merci pour ta grâce. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen.